Alors, l'objet de cet exercice est de montrer l'équivalence entre une équation aux dérivées partielles, qui pour l'instant est. Enfin bon, qu'on va poser au sens des distributions. Donc, on va chercher U qui est dans H1, 0 de oméga, tel que moins U seconde plus lambda U égale F, avec ici une égalité au sens des distributions. Et puis F qui est un élément de H-1 de oméga. Ça, c'est une première chose. Et puis une formulation variationnelle, où on va chercher U qui est dans H1, 0 de oméga, tel que quoi? Tel que A de UV égale B de V pour tout V appartenant à H1, 0 de oméga, où on a une forme bilinéaire A de UV qui est l'intégrale de U'V' plus lambda fois l'intégrale de UV. Et on a B de V égale l'intégrale de F, là on a simplement un crochet de dualité entre F et V avec une dualité qui est H-1, H1, 0. Donc déjà la première chose c'est que pour cette dualité là, je vous renvoie au théorème 7.3 et à la définition 7.3 pour bien comprendre ce que signifie ce crochet de dualité, mais on va y revenir. Donc la première remarque, c'est que l'équation de départ qu'on a, c'est celle-ci, et il y a des conditions de bord qui sont encodées dans l'espace fonctionnel. Donc en fait, on résout une équation qui est moins U seconde plus lambda U égale à F. On se demande un petit peu en quel sens est posée cette équation, est-ce que c'est au sens des fonctions continues, est-ce que c'est dans les deux. Donc en fait là, on dit que c'est une égalité au sens des distributions, et les conditions de bord sont encodées dans l'espace fonctionnel. Donc, quand j'écris EDP, c'est déjà une formulation qui n'est pas, qui n'est pas complètement triviale de l'équation qui est formellement posée. C'est déjà une interprétation mathématique de qu'est-ce qu'on cherche à résoudre. Donc, du coup, cet exercice, on va montrer que l'équivalence entre la formulation variationnelle et l'équation dérivée partielle. Il y a un sens qui est plus facile que l'autre, qui est de la formulation variationnelle vers le DP, et il y a un autre sens qui est un tout petit peu plus compliqué, qu'on va faire dans un deuxième temps. Donc commençons par faire, le sens facile. C'est que supposons que la formulation variationnelle, on va partir de la formulation variationnelle. Donc là, le point, c'est qu'on va, la particulariser au cas où V, en fait, est une fonction C infinie à support compact, qui est bien, effectivement, du coup, en particulier, un élément de H1, 0, 2, oméga. Donc, à ce moment-là, on n'a que A de UV, qui est égal à l'intégrale sur oméga de U'V' plus lambda intégrale de UV. C'est égal à, au crochet de dualité entre T et V, H-1, H1, 0. Donc le jeu, là, dans un premier temps, ça va être de réécrire tout ça, parce qu'on veut à la fin une égalité au sens des distributions. On va réécrire tout ça avec des crochets de dualité. Donc ça, c'est bien U'V', avec un crochet de dualité D'D, plus lambda fois UV, crochet de dualité D'D. Ça, ici, j'ai utilisé le fait car U et U' sont L2, sont des fonctions de L2 de oméga, donc sont en particulier L1 log de oméga. Et je sais que dans ce cas-là, je peux écrire que l'intégrale, enfin que le crochet de dualité, c'est bien l'intégrale d'une fonction contre l'autre. Donc là, il faut absolument justifier, pour justifier cette égalité, ici, je veux absolument voir cet argument-là, le fait qu'on utilise, le fait qu'on sait qu'on a de la régularité, de l'intégrabilité sur U et U'. Pour le membre de droite, là, c'est un petit argument qu'on utilise que par le théorème 7.3, que je vous encourage vivement à relire, notamment dans la version mise en ligne du poly, j'ai rajouté un petit commentaire. Donc par le théorème 7.3, vous savez que T phi, si j'ai noté... ici, j'ai noté, en fait, bon, j'ai noté ici V, la fonction qui est, c'est infinie à support compact. Ce serait peut-être mieux de la noter, ce serait peut-être mieux de la noter phi. Donc je vais peut-être garder ma notation phi là. Donc ça, c'est si phi est dans d de oméga. Vous avez que t phi d'd, vous avez en fait l'égalité entre le crochet de dualité au sens des distributions et le crochet de dualité en dualité h1, h-1, h-0. Voilà, ça me prend de dire que finalement, en fait, c'est cette définition-là qui définit les éléments de h-1. Et la remarque, c'est que la propriété de continuité, la propriété de continuité des formes linéaires sur H1 0 vous permet en fait d'étendre l'égalité que vous avez ici. Ça permet, en fait, on peut l'étendre à toutes les fonctions phi qui sont dans H1 0. Bon, en tout cas, quand on particularise à des fonctions phi qui sont infinies à support compact, on a en particulier cette égalité. Ainsi, du coup, qu'est-ce qu'on a ? Ben, on a que U prime phi prime, donc si je prends toujours ma fonction phi prime infinie à support compact, plus lambda U phi, c'est égal à T phi d'd. Donc ici, ce que je peux faire, c'est remarquer que par définition, la dérivation sans distribution, ça c'est moins U seconde phi d'd. Et au final, je rassemble tout le monde pour voir que moins U seconde plus lambda U moins... pardon, en fait j'ai mis T à droite, mais c'était... ici, en fait, c'était un F, autant pour moi. Ici, c'est un F aussi, ici, c'est un F aussi. Ça, crochet dualité contre phi, c'est bien égal à 0. Donc ça, pour toute fonction phi. Et ça vous dit, donc, du coup, ça, c'est bien égal à 0 dans D'. Donc ici, vraiment une égalité au sens des distributions. Donc ce que je ne veux surtout pas voir dans cet exercice, ici, en fait, il faut absolument passer par un crochet de dualité et ensuite faire des dérivations sans distribution. Il ne faut surtout pas d'intégration par partie, quoi. Je ne veux surtout pas voir d'intégration par partie à ce stade, en particulier parce que U seconde, comme U est qu'une... U appartient à H1, 0, 2, oméga. U seconde, c'est quelque chose qui peut être singulier. En tout cas, U seconde, c'est a priori, c'est pas quelque chose qui est L1 loc. Et un exemple typique, en fait, c'est prenez cette fonction. Voilà, cette fonction U de X en fonction de X. Ce que vous pouvez vérifier, c'est que cette fonction est bien H1. En fait, il y a une dérivée assez simple, hein, qui est qu'une fonction constante égale à 1, puis ensuite égale à 0. Ça, c'est mon U' de X. Donc ça, cette fonction-là va bien être H1 sur un domaine borné. Mais sa dérivée seconde, ça va être une masse de Dirac en 0. Enfin, l'opposé d'une masse de Dirac en 0. Et donc, c'est pas en particulier, c'est pas une fonction L1 loc. L'autre élément que je pourrais, sur lequel je pourrais insister, c'est que ici, le membre de droite F, il est dans H-1. Et il y a un exercice du chapitre 7 qui vous montre que la masse de Dirac, elle appartient à H-1 en dimension 1, en 1D. Donc attention, le membre de droite ici, ça peut être quelque chose de particulièrement singulier. Et donc, il faut surtout travailler seulement au sens des distributions à ce stade. Bien. Maintenant, du coup, ça, c'était le sens facile de la formulation variationnelle vers le DP au sens des distributions. Dans l'autre sens, en fait, il suffit de remonter les calculs. Ça veut dire que maintenant, si vous partez de l'EDP... Et du coup, je vais remonter les calculs. On part de l'EDP, on a moins U seconde plus lambda U moins F est égal à 0 au sens des distributions. Qu'est-ce que ça veut dire ? Hop, on remonte d'un cran, on va considérer n'importe quelle phi dans D2 oméga. On va prendre le crochet de dualité et on revient à cette équation-là ici. Maintenant, du coup, qu'est-ce que je fais ? Bah, je redépile la dérivée. Et je reviens la dérivée de U prime. Là, il y a vraiment une équivalence entre ces deux formulations. Et donc, je suis revenu à cette formulation-là au sens des toujours au sens des distributions. Maintenant, ici, cette quantité-là, comme U prime est dans L1 loc, en fait, ça, c'est vraiment égal à l'intégrale de U prime phi prime. Et ça, ici, c'est vraiment égal à lambda fois l'intégrale de U phi. Et ici, là, avec l'égalité du... On peut vraiment utiliser cette égalité-là. Donc là, on a vraiment travaillé par équivalence. Et donc, il y a vraiment équivalence entre l'équation dérivée partielle qui est satisfaite au sens des distributions et la formulation variationnelle qui est posée, enfin qui est restreinte à des fonctions sans infini à support compact. Donc la deuxième question de l'exercice est vraiment, j'allais dire, immédiate. Donc maintenant, donc si le raisonnement c'est que du coup si on a si vous partez de l'EDP, alors vous avez la formulation variationnelle pour des membres de droite V qui sont s'infini à support compact. C'est-à-dire que vous avez que A de UV égale B de V pour tout V appartenant à D de oméga. Et maintenant, on voudrait étendre ça pour l'avoir effectivement sur toutes les fonctions V de H1, 0 de oméga. Donc il s'agit d'étendre les applications qui a V associé à de UV et V à qui a V associé B de V. Donc ça, c'est à étendre par continuité sur H1, 0. Donc ça veut dire qu'il suffit de vérifier qu'en fait, ces deux applications vont être continues par rapport aux normes H1. Donc ça, c'est l'objet de la troisième question. Donc la première chose, commençons par le terme facile. Vous avez que B de V, qui en fait, par définition, c'est le crochet de dualité H-1, H1, 0. En fait, ça, c'est du coup, si V est dans D d'oméga, ça va être du coup le crochet de dualité entre F et V D'D. Et ça, c'est plus petit qu'une certaine constante fois la norme de V dans H1, par définition du fait que car F appartient à H-1 de oméga. Donc là, c'est vraiment la définition 7,3 qui joue. Et à présent, en fait, cette l'inégalité qu'on a, c'est-à-dire que B de V est majoré par C fois V dans H1, ça montre que B de V, donc B est une forme linéaire. Ça, c'est une forme linéaire qui est continue sur H1, 0 de oméga. En fait, ici, on va utiliser la proposition 4.4 qui va vous dire que vous avez une forme linéaire qui est définie sur un sous-espace vectoriel de H1, 0, un sous-espace vectoriel dense de H1, 0, et qui, donc, vous avez montré la continuité sur ce sous-espace vectoriel dense, et donc vous pouvez l'étendre à une forme linéaire bornée sur tout l'espace. Donc c'est vraiment cette proposition 4.4. Et ici, à ce stade, je vous encourage à regarder autour du théorème 7, dans le théorème 7.3. J'ai ajouté quelques commentaires qui vous permettent de mieux comprendre cette inégalité-là. Pour le terme A de UV, là, les estimations sont assez simples aussi. En fait, vous prenez U et V qui sont dans H1, 0 de oméga. Et vous avez que A de UV, c'est par l'inégalité triangulaire, c'est plus petit que l'intégrale de U'V' plus lambda fois l'intégrale de UV. Bon, ici, on a utilisé le fait que lambda est positif. Par une inégalité de Cauchy-Schwarz. Donc Cauchy-Schwarz, je rappelle, c'est ARZ, il n'y a pas de T dans le Z. Ça, c'est plus petit que la norme de U' dans L2 fois la norme de V' dans L2 plus lambda fois la norme de U dans L2 fois la norme de V dans L2. Or, donc là, c'est le moment de se souvenir que la norme de U dans H1 au carré, c'est la norme de U dans L2 au carré plus la norme de U' dans L2 au carré. Donc en particulier, à la fois la norme L2 de la fonction, ça c'est plus petit que la norme de U dans H1, et aussi la norme de U dans L2, ça c'est plus petit que la norme de U dans H1. Donc au final, tout ce petit monde est plus petit que quoi? Que on va dire 1 plus lambda. On va faire les choses simplement. 1 plus lambda fois la norme de U dans H1 fois la norme de V dans H1. Et donc ça montre bien la continuité sur H1. Ça montre bien la continuité sur H1 0 2 oméga, muni de la norme H1. Donc on va pouvoir revenir ici au fait que ces deux formes linéaires, ce qui avait, donc pour un U à charge zéro donné, ce qui avait associé A de UV et ce qui avait associé B de V, sont toutes les deux des formes linéaires continues sur H1, 0. Hop, pardon. Donc on a des formes linéaires qui sont continues sur H1, 0. Et en particulier, du coup, ce qui avait associé A de UV moins B de V, ça c'est une forme linéaire continue sur H1, 0. Et qui est aussi identiquement nul sur D de oméga. Ça, c'est le résultat de la deuxième question, puisqu'on a vu que A de U phi moins B de phi, c'est égal à 0 pour tous les phi qui sont dans D de oméga. Et donc là, on va pouvoir utiliser la proposition 4-4 à nouveau, qui va dire que cette application linéaire va s'étendre de manière unique sur H1, 0. Et ça s'étend de manière unique. Et du coup, là, comme 0 est une extension, enfin, comme la forme linéaire nulle est une extension possible, en fait, elle convient et c'est la seule. Et donc, ça permet de montrer qu'on a bien que A de UV égale B de V pour tous les V qui sont dans H1, 0 de oméga. Donc, ce qu'il faut retenir de cet exercice, c'est que pour aller de... Donc, peut-être en résumé de tout ça. Pour de l'EDP à la formulation variationnelle, essentiellement, il faut particulariser la formulation variationnelle, les fonctions C1 phi à support compact. Et il faut ensuite tout faire dans D'. Et de la formulation variationnelle vers l'EDP, qu'est-ce qu'on fait? On remonte les calculs pour avoir une formulation variationnelle sur un sous-espace dense de l'espace de Hilbert, plus un argument de densité et de continuité des fonctionnels en jeu. Donc ça, c'est vraiment un schéma très classique qui intervient souvent pour montrer du coup l'équivalence entre les formulations des équations dérivées partielles et les formulations variationnelles.